au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Michel Del Castillo, que beaucoup d'auditeurs connaissent, beaucoup de personnes connaissent en France, en Espagne, en Europe, dans le monde. Et je rappelle sur Michel Del Castillo, qui est né à Madrid en 1933 et qui a vécu toute sa petite enfance jusqu'en 1939. Et ensuite, il s'en va en France. Il doit quitter, bien entendu, cette guerre civile terrible, car nous savons qu'en 1939, il y a la victoire des armées franquistes. Il revient ensuite, il se retrouve ensuite de 1945 à 1949 dans un centre de redressement pour mineurs à Barcelone, l'asile Duran, de sinistre mémoire. Et par la suite, en 1953, il réussit à franchir clandestinement la frontière et se retrouve en France où il renoue, bien entendu, les contacts avec sa famille paternelle, son père étant français. Alors, n'oublions pas que Michel Del Castillo a écrit de très nombreux livres. Le premier s'appelle Tanguy, un livre extrêmement important. Il a reçu de très nombreux prix et je signalerai, pour cette introduction assez brève, parce que nous allons avoir un entretien direct avec Michel Del Castillo, je rappelle quand même deux livres parmi ses grands succès, des livres importants. Sa partie française, c'est « Le Colette, une certaine France », dans lequel il dit quelque chose, il écrit à la fin du livre « Je ferme alors les yeux, j'écoute avec ravissement la voix de Colette qui, debout près du puits, jette son appel. Les enfants, où sont les enfants ?» Ce cri, tous mes livres le répètent depuis le premier. Et aujourd'hui, je reçois Michel Del Castillo pour Le Temps de Franco, une partie de son enfance aussi. Bonjour, monsieur Del Castillo.
Bonjour.
Je suis très, très heureux de vous recevoir parce que je dois dire que les livres que j'ai lus de vous m'ont toujours profondément touché. Celui que j'ai repris sur Colette est un livre vraiment tout à fait important. Et c'est, je disais tout à l'heure, votre partie française. Puis aujourd'hui, il y a Le Temps de Franco. Alors vous écrivez, il y a une postface qui est absolument éblouissante, sans parler du reste. « Je cherchais moins des réponses que des signaux dans la nuit de mon existence dispersée. »
Oui, c'est tout à fait ça, parce que, si vous voulez, comme je suis arrivé, comme vous le rappeliez tout à l'heure, enfant, à 6 ans en France, avec ma mère, donc, qui m'avait amené avec elle en exil, et que nous avions été internés tout de suite dans un camp pour femmes en Lozère, j'avais eu l'enfance bercée tout le temps de Franco, du franquisme, du fascisme, hein, d'autant que la guerre avait continué. Un enfant ne comprend pas ces mots-là, hein, je ne comprenais pas, mais c'était comme une énigme, c'est qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est. D'autant que mes impressions de Madrid enfant ne coïncidaient pas du tout avec le récit postérieur que j'entendais. Il y avait comme un hiatus entre ce qu'ils disaient une fois dans l'exil et ce que j'entendais à Madrid et que j'avais vécu à Madrid. Et donc c'était des énigmes vraiment. Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que nous avions vécu?
Oui, on le sent bien. C'est vrai que c'est un livre qui est vraiment multiple parce que vous n'y apparaissez pas vraiment, encore qu'il y a quelques brèves apparitions et à des moments justement forts, mais surtout, il y a cette recherche qui rejoint un peu ce que vous disiez à la fin du livre de Colette, cette recherche de beaucoup de choses, mais notamment deux points qui me semblent très importants. La paix intérieure et l'exigence de justice.
Ah oui, tout à fait. Ça, c'est vrai que c'était un besoin de retrouver intérieurement une certaine lucidité, une certaine tranquillité de l'esprit, de comprendre ce que nous avions vécu. Et puis, si vous voulez, j'avais ce sentiment, je l'ai beaucoup moins maintenant, mais je ne l'ai pas en 30 ans, si vous voulez, et c'est passé avec Franco et avec le régime franquiste quelque chose d'assez curieux. les républicains, entre guillemets, je vous dirai pourquoi je mets des guillemets après, mais enfin, en tous les cas, les forces de gauche qui arrivent réfugiées en France après la défaite, vont s'installer très vite une sorte de catéchisme très simpliste. Il y avait une république légalement élue, l'armée et l'église se sont rebellées et levées contre ça. On fait donc un coup d'État pour abattre la république et pris au bout d'une guerre civile atroce, le fascisme l'a emporté en Espagne. Et donc, si vous voulez, c'était pour moi quelque chose d'assez sidérant parce que quand on est enfant, on est très manichéen, si vous voulez. Moi, c'était très simple. Ma mère parlait à la radio le soir et je l'écoutais, mais j'étais tout petit, hein. Et donc, si vous voulez, pour moi, elle avait raison, ils avaient raison. Les bons étaient du côté de ma maman et les autres étaient les méchants. Et puis, quand je vivais à l'intérieur de ma vie, je me trouvais avec quelque chose d'un phénomène très curieux. C'est qu'à la maison, on tremblait de peur, on se préparait toutes les nuits. Ma grand-mère s'est habillée toutes les nuits entièrement, se couchait habillée avec une valise toute faite à côté. Toutes les nuits, on a vécu dans la hantise de l'arrestation. D'ailleurs, elle sera arrêtée, ma mère aussi.
Et pourtant, elle était républicaine.
Voilà. Et donc, si vous voulez, je me disais toujours, mais comment est-ce qu'on peut avoir été les bons et avoir eu peur des bons? Pourquoi est-ce que les bons tuaient les bons? Si vous voulez, c'était pour moi quelque chose de très étrange. C'était de dire, mais donc, c'est que l'histoire n'était pas si simple que ça. Ensuite, il y avait chez ma mère... Madrid était vraiment à ce moment-là entre les mains non pas de la République mais du Parti communiste espagnol qui avait pratiquement pris le pouvoir hein, dans l'armée, dans la police, dans les forces de répression, dans tout. Et elle recevait souvent des amis, presque tous communistes, sur la terrasse dans l'appartement. Et j'avais gardé, c'est un de mes premières impressions, souvenirs d'enfance très très fortes. C'était après le dîner et s'était mis à parler. Mais je devais être minuscule, hein, je devais avoir 3 ans et quelques, pour que ça m'ait à ce point impressionné, le mot. Hein. Ils sont mis à parler des cadets de l'Académie de Tolède. Moi, je ne sais même pas de quoi il était question, mais... Et l'un des amis de ma mère, en riant, a dit, en tous les cas, quelle résistance, les mecs, etc. Et ma mère est partie en riant, en disant, évidemment, ce sont des Espagnols, etc. Et après, c'était pareil. Je me disais, donc, on peut être dans Madrid rouge et marquer de l'admiration pour les autres. Alors, tout était comme ça bizarre, si vous voulez, parce que là, j'en parle avec beaucoup de recul et de temps, mais vous n'imaginez pas ce qu'a été cette terreur dans Madrid, mais vraiment une terreur de masse. Hein. Ça a été vraiment des arrestations, des exécutions sans arrêt, une atmosphère, la nuit, si vous voulez, dans le blackout, sans une lumière, dans cette ville où on guettait la moindre voiture, si vous voulez, les gens disparaissaient, étaient arrêtés, on ne savait pas où ils étaient embarqués. Bon, ça a été une espèce de truc. Et alors, c'était assez curieux, parce que donc, c'était ça, c'était une énigme. C'était vraiment une énigme.
Une énigme. Vous avez voulu répondre à une énigme. Alors, ce qui est magnifique, vous vous rappelez de Madrid, le silence, la peur, c'est des termes qui reviennent. Et ce qui est vraiment... D'ailleurs, le passage, quand vous parliez de Tolède il y a un instant, quand vous parlez de la résistance des cadets, c'est un des passages de votre livre les plus... c'est un des passages, il y a d'autres passages très très importants, mais des plus marquants, les plus frémissants, je dirais, parce qu'on sent dans ce passage le frémissement de l'Espagne. L'Espagne, je dirais qu'elle est presque réunifiée dans cette résistance à magnifique, si vous voulez, etc.
Ah oui, ça a été magnifique, et d'ailleurs, si vous voulez, là aussi, ça fait partie des mythes, vous savez, Franco gagne la guerre civile et s'installe pour 40 ans au pouvoir. Mais il perd la guerre idéologique et de propagande. Donc c'est une situation très particulière parce que d'un côté il a gagné, mais il a perdu sur le plan de la propagande. Il y avait à Paris à cette époque, dans les années 30, un véritable génie de la propagande qui était un communiste qui s'appelait Willy Münzenberg et qui dirigeait ici des officines très très importantes. Et c'est lui qui a mené notamment 2 coups magnifiques. L'incendie du Reichstag, où il sort un livre qui sera vendu à des centaines de milliers d'exemplaires pour accuser les nazis, et la Russie à mobiliser. Et puis la guerre d'Espagne, qui a été sa grande affaire. Et là, dès le début, il y a une idée qui va s'installer en France définitivement, c'est la République. Il y a une République, elle a été élue légalement, et puis l'armée s'est soulevée, c'est un coup d'État militaire. Or, si vous voulez, le moindre observateur, le plus naïf, dès qu'on commence à compulser les documents, il n'y a plus de République depuis 2 ans.
Il n'y a plus
de République. Depuis 1934, il n'y en a plus. Elle est vraiment...
C'est ce que vous montrez.
Elle est liquidée, littéralement liquidée. Donc déjà, si vous voulez... Mais on a besoin, pour la propagande, de ce mythe de la République qu'on va mettre tout le temps en avant. À tel point que quand le Parti communiste, sur instruction du Comintern de Moscou, donne le mot d'ordre d'envoyer des brigades internationales composées à 90% de communistes, on demande à tous ceux qui s'engagent volontaires de déchirer leur carte du parti et de cacher leur appartenance au parti, parce qu'il faut que dans la propagande, le mythe continue, c'est un élan unanime du peuple qui va aider fraternellement l'Espagne humiliée. Et tout est comme ça. Enfin, là, je prends des exemples gros, mais je pourrais vous en citer 10, 20, 30.
Puis vous dites de façon extraordinaire aussi, enfin, qu'au fond, les meurtres, d'après ce que j'ai bien compris, il y en a à peu près, on évalue à peu près les meurtres à 50 000 personnes du côté de Franco et à 50 000 personnes à peu près du côté des Républicains. Donc c'est pareil.
Il a fallu 25 ans de comptabilité, de travaux des statisticiens, des historiens espagnols, etc., pour qu'on arrive en fait à voir maintenant une idée assez précise. On donne les derniers travaux faits en Espagne donnent une légère supériorité pour les assassinés du côté rouge, mais très peu, à 1200. Donc ça se discute. En fait, c'est 50 000 de chaque côté. Plus à peu près 120 000 tués au front des deux côtés, quand vous venez. Ce qui, pour un pays beaucoup moins peuplé que la France, un peu, fut une véritable saignée, hein, ce fut épouvantable. Mais des deux côtés, et non seulement en nombre, mais dans la manière de procéder. Par exemple, il s'est produit dans le Madrid Rouge un crime.
Paracuelos.
Ah oui. Qui ressemble étonnamment à ce que les Soviétiques
feront
à Katyn. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 11 000 prisonniers à Madrid, politiques, des gens qu'ils ont arrêtés dans leur maison la nuit, et on décide à un moment donné de les liquider tous. On réquisitionne tous les autobus de la ville, ces autobus impériaux à 2 étages, plus des autocars de tourisme, et on amène ces prisonniers ligotés par 2, parfois par 3, dans des villages dont un de sinistre mémoire qui s'appelle Paracuello. On a fait creuser des tranchées, et dans la lumière de l'aube, on va comme ça massacrer des milliers de prisonniers qu'on a extirpés comme ça. Alors, si vous voulez, la façon d'assassiner de part et d'autre, parce qu'on pourrait raconter les mêmes horreurs de l'autre côté, ne sont pas... Vous savez, Unamuno, Miguel de Unamuno, mon vieux maître, a dit à ce moment-là des phrases très décisives, je trouve. Il disait que c'était une pathologie du meurtre, que l'Espagne était devenue malade, si vous voulez. Ça a été une guerre civile. Et une guerre civile est une guerre multipliée par haine. C'est oui, vraiment, oui, oui. Si vous voulez, on l'a vu en Yougoslavie, on l'a vu en
Et
Bosnie.
Puis, monsieur Del Castillo, vous montrez très bien que du côté franquiste, il y a au moins un simulacre de tribunal, alors que du côté républicain, dans le cas de Madrid, c'est le meurtre en série.
Ah oui, au début, il n'y a strictement aucun jugement, il n'y a même pas un parade, si vous voulez. L'argument, et c'est un argument qui va servir, hélas, pendant pratiquement tout le XXe siècle, c'est qu'il faut anéantir et liquider la réaction et la bourgeoisie réactionnaire. Donc à partir de là, tous ceux qui ont été arrêtés, vous trouvez dans l'eau, si vous voulez, une religieuse de 85 ans qui est aveugle en plus, qu'on va comme ça. Vous trouvez deux jeunes gens qui ont 17 ans à l'époque, qui sont fusillés pour avoir une intention d'aller au séminaire. Donc, vrai, non il y a, bon, je vous en passe, et des mille, mais il n'y a strictement au départ aucune, vraiment, non seulement un embryon de justice, mais même un semblant de justice.
Et puis il y a eu quand même un peu une sorte de miracle, si j'ose dire, c'est le fameux Melchior Rodriguez, cet anarchiste qui a protégé des milliers de personnes qui allaient mourir.
Alors ça, c'est un personnage magnifique parce que c'est aussi le côté tellement espagnol, si vous voulez. Les anarchistes sont à part. Hein. Ils n'étaient pas tendres, hein. Ils ont beaucoup tué. Ils tuaient d'autant plus qu'ils détestaient la prison en disant que la prison, c'était l'avilissement de l'homme, donc il valait mieux fusiller. Donc ils fusillaient beaucoup. Mais il y avait un côté très espagnol, très romantique, très idéaliste. Et cet homme qui avait été torero raté, qui avait mené comme ça une vie, un truc, qui est un anarchiste, est nommé par le ministre de la Justice, directeur des prisons de Madrid, arrive là-dedans et immédiatement donne l'ordre d'arrêter toute sortie. On appelle ça d'un mot terrible d'Espagne la saca, c'est-à-dire tirer hors des prisons, si vous voulez, sans mandat, sans aucun truc, des milliers de types pour aller les avoir. Il interdit, il dit qu'on le fera sans sa signature et avec un tampon des prisons intrus. Il se met au travers de tout l'appareil du Parti communiste qui va mettre 6 mois s'en débarrasser. Ils finiront par s'en débarrasser, mais ils vont mettre 6 mois. Et il aura arrêté quand même le flot terrible des exécutions. Et après la guerre, en plein jugement franquiste, il a été condamné à la prison pendant 2 ans. Il sort relativement vite. Il meurt à l'hôpital, d'ailleurs. Je vous le donne en mille. Il meurt à l'hôpital Francisco Franco, soigné là-dedans, dans tout. Et à son enterrement, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Artajuela, il dépose un crucifix sur le cercueil qui est recouvert du drapeau anarchiste. Et il récite un Notre Père pendant que les anarchistes copains présents, poing levé, chantent l'hymne anarchiste. Et ça, c'est tout à fait espagnol, si vous voulez, cette espèce de mélange extraordinaire, à la fois d'idéalisme, de folie, de générosité, dans tout ça. Et ça a été un type très étonnant, très étonnant, et qui donne une très belle idée de ce que peut être un juste et un homme honnête. Quand d'un seul coup, il arrive à enrayer une machine de mort.
C'est vraiment... c'est impressionnant, avant que nous nous quittions pour une pause, c'est vraiment impressionnant ce que vous dites, parce que vous montrez, vous démontrez dans ce livre, qui est un grand livre, il faut vraiment le dire, c'est un grand livre, vous démontrez que le gouvernement, bien sûr, les communistes faisaient leur travail de mort, mais le gouvernement socialiste a accepté tout cela, n'a pas essayé le gouvernement socialiste, donc républicain, n'a pas essayé d'enrayer cette terrible machine mécanique. Alors, je rappelle, je reçois aujourd'hui Michel Del Castillo, auteur d'un livre impressionnant qui s'appelle « Le temps de Franco ». C'est un récit, c'est l'œuvre d'un écrivain. Je retrouve la sensibilité par moments d'un Stefan Zweig, l'information de la rigueur d'un Brodel, pour ne pas citer quelques autres auteurs magnifiques. C'est chez Fayard, Michel Del Castillo, « Le temps de Franco », récit chez Fayard, un livre absolument magnifique qui, je l'espère, recevra les prix qu'il mérite. À tout de suite.
Quelles seront les énergies exploitées d'ici 2050 pour contrer la pénurie de pétrole ? Nucléaire, bois de chauffage, biosphère, géothermie ou encore hydrogène, Bernard Tissot, membre de l'Académie des sciences, nous donne les détails de ces nouvelles énergies du futur sur Canal Académie, une émission en libre écoute et libre téléchargement.
Je reçois aujourd'hui Michel Del Castillo, pour son livre « Le temps de Franco, récit chez Fayard ». Et sur la page de couverture, il y a une photo du général Franco qui a l'air plutôt un petit sourire discret. Et l'on voit la moitié de son visage éclairé en pleine lumière et l'autre moitié dans le noir. Et c'est en effet un peu le personnage, si j'ai bien compris. Un côté, ce n'est pas un fasciste, vous le démontrez.
Non, pas du tout. Mais si vous voulez, le mot fascisme a complètement perdu son sens et est employé à tout propos, et notamment en France. Mais je me suis toujours demandé, depuis des années, à quoi correspondait cette hantise et cette banalisation du fascisme en France. Tout est fascisme. Et je pense, ça c'est une explication très personnelle, mais je crois que la France ne s'est jamais remise de la défaite de 40 et qu'elle passe son temps à remporter comme ça des victoires virtuelles sur le fascisme, ayant été battue à plate couture, on dirait qu'elle ne se console pas, elle qui fuit quand même la grande puissance militaire pendant des siècles. Et il y a comme ça, parce que c'est hallucinant, si vous voulez, le fascisme, étymologiquement, par exemple, Hannah Arendt, qui l'a le mieux étudié, il y a dans le fascisme, d'abord, sans ça, on ne comprend rien, une dimension révolutionnaire. Le fascisme est un mouvement de jeunesse paramilitaire qui s'empare de l'État, qui le double d'ailleurs complètement, au point de n'en faire un, comme dit Hannah Arendt, mais tous les postes sont doublés par le parti, si vous voulez, c'est la mainmise d'un parti sur l'État.
Ce qui ne fut pas le cas.
À jamais. Il a même donné très rarement un ministère au seul parti soi-disant fasciste. Hein. Et puis le seul parti fasciste qu'il y avait, Franco Lucas. Il met les dirigeants en prison, Et puis il fait un nouveau parti, comme il dit, il met les monarchistes, il met les machins, il mélange tout ça.
Il les mascule.
Complètement. Donc, et puis en plus, vous pouvez l'accuser tout ce que vous voulez, et on peut l'accuser de beaucoup de choses, mais certainement pas des larmes révolutionnaires. Si vous... Pour lui, Mussolini, surtout Hitler, sont des agités du vocal. Hein.
Ah
c'est
oui,
vraiment
oui.
Des gens qui... C'est un militaire, et un militaire du 19e siècle. Hein. C'est un militaire que l'appelle de la baïonnette, avant... qui a été d'ailleurs un admirable militaire. Un
courageux,
courage, ah, très courageux. Courageux et adoré de ses hommes. Hein. Très ascétique, pas du tout... C'était pas un rigolo-rigolo. Il a vécu toute sa vie au milieu des honneurs du Pardou, dans une simplicité de petite bourgeoisie, toujours le même repas, le même verre de vin, jamais deux. Mais en revanche, le culte de la pompe de l'État, dès qu'il sort du Pardou, c'est vraiment... Donc, si vous voulez, il y a deux aspects chez lui très curieux. L'homme d'État et l'homme privé. L'homme privé ne coïncide pas du tout avec l'homme d'État. Et donc, non seulement il n'est pas fasciste, mais il casse le fascisme espagnol. Il est un conservateur à l'État pur, hein, un national conservateur. Un national catholique, hein, et catholique, ce qui est très important chez lui. J'entendais, il y a encore avant-hier par hasard, une émission faite sur lui à la télévision française, et j'entendais redire qu'il était d'origine marane, donc d'origine juive convertie, ce qui était, disait le présentateur, archi-connu.
C'est pas du tout démontré.
On a fait pendant 4 siècles de recherche dans tous les cas, on n'a jamais trouvé une trace de ça. Donc on peut toujours, sauf que le nom, le Franco, a effectivement une connotation marine en Espagne. Mais,
oui.
Mais on a vraiment suivi les arbres généalogiques jusqu'à peu près 1400 et quelques, sans trouver l'ombre. Donc ça me paraît un peu inutile en plus. Et alors on attribue tout de suite une psychologie. Hein. On dit qu'il était dissimulateur, hein, comme les marins. Mais les autres vous diront il était dissimulateur comme un Galicien, qu'il est prudent, etc. Il était tout bêtement, oui, effectivement, froid, peu expansif. Ça, c'est
on n'arrête pas de le rabaisser.
Ah, tout le temps.
Tout le temps.
Alors, il est nul, c'était un imbécile, ce qui n'était pas du tout.
Alors, c'est un stratège.
Ça a été un excellent politique. Ça a été un excellent. Vous savez, on ne dure pas au pouvoir 40 ans. Et dans un pouvoir absolu. Si on n'a pas au moins le sens de la politique. Et il l'avait.
Et puis, alors, vous citez à la page 384 de votre livre, le général Cabanellas, c'est peut-être lui qui l'a le mieux cerné, je vous cite, « Puisque, selon votre vœu, on va lui donner l'Espagne, il va croire qu'elle est à lui, il parle de Franco, et il ne permettra à personne de le remplacer, ni pendant la guerre, ni après. » Et alors, Michel del Castillo, vous parlez de Franco comme étant un nouveau Philippe II.
Oh ben ça c'est fascinant parce que tous les rapprochent, hein, on pourrait là écrire des pages et des pages. Il y a quelque chose, si vous voulez, c'est inscrit dans la pierre. Hein. Le grand œuvre de Philippe II, c'est l'Escurial, qui est à la fois un panthéon royal, une bibliothèque, une communauté religieuse, une église, et puis un palais royal. Donc, si vous voulez, consacré à l'étude, aux sciences de la Renaissance, avec un verger qui à l'époque était superbe, avec des jardins. Bon, et juste en face, à 10 km sur la colline en face, Franco fait construire son grand monument au tombé, comme si la seule obsession de Franco avait été Philippe II, jusque dans le culte des morts, de ses morts, si vous voulez. Donc, bien sûr...
L'Empire.
Et puis, ils sont tous les deux des conservateurs catholiques, intégristes, extraordinairement fermés, tous les deux très froids. On a dit de Franco qu'il était le moins espagnol des Espagnols. Il parle très peu. Il est toujours très évasif, il est d'une froideur glaciale avec les gens, mais pas du tout par mépris, une timidité affreuse. Il ne montre rien, comme l'était Philippe II.
Ce timide est d'un courage incroyable.
Ah, physiquement, il a été un courage inouï.
Vous vous souvenez, quand vous le racontez de façon magnifique, il arrive aux Canaries, je crois que c'est aux Canaries, et la foule crie « Abba Franco », il s'avance vers eux, seul, sans rien dire, et tout d'un coup, la foule se transforme, il crie « Vive Franco ». C'est quand même inouï. Ça.
Oui, parce qu'il y a ce côté en Espagne où on est très sensible aux gestes, si vous voulez.
La fuerza.
Et il avait ça. Il avait, si vous voulez, fait toute la guerre du Maroc, la guerre du Rif, par exemple, monté sur un cheval blanc et toujours à la tête de ses troupes, qui ont pour lui une admiration. Et les Marocains l'admirent énormément en disant qu'il a la baraka parce qu'il fait tout pour signaler sa présence. Il ne se cache jamais.
Et sa garde personnelle était marocaine.
Ah oui, tout le temps.
Mais cet homme, alors... qui a, on voit des qualités quand même importantes, en même temps et sans pitié, alors, par contre.
Absolument. Il est aussi glacial qu'on peut l'être dans le genre. Il croit toujours appliquer le code militaire. Il va faire fusiller pratiquement sans arrêt pendant 3 ans, d'une façon avec un côté glacial. C'est un mot qu'il ne connaît pas. De même que c'est moi ce qui me le rend assez antipathique, il y a un mot qu'il n'a jamais pu prononcer, c'est le mot amnistie. Il accorde des grâces, il relâche des prisonniers, jamais il ne pourra dire amnistie. Pour lui, il y aura toujours deux Espagnes, celle des rouges, des athées, des ennemis de Dieu, et puis la bonne Espagne qui est blanche, catholique, croyante, pure, etc. Il ne conçoit pas le monde, il ne sait pas ce que c'est que le
Mais
gris. Hein.
On peut dire, cher Michel Del Castillo, on peut dire que finalement c'est le coup d'État communiste, entre guillemets, qui fait que Franco a pris le pouvoir.
Ah mais complètement, si vous voulez ça, c'est par exemple, maintenant vous le lisez comme une banalité en disant c'est la mainmise bolchevique sur l'armée, sur la police, sur toute la zone dite républicaine, qui fait qu'il va être légitimé de biais, je dirais par réflexion directement, d'autant que son obsession depuis jeune officier, c'était le communisme. C'était le communisme, la montée du communisme, et qu'il sentait que l'Espagne pouvait être un endroit clé de par sa position stratégique, et que donc, dans son esprit, il fallait absolument éviter que l'Espagne passe du côté communiste.
Et puis, la preuve que vous la donnez, enfin, parmi d'autres, quand même que cet homme a été à un moment une sorte de dictateur, et puis après un homme fort, surtout un militaire, on explique Franco par le côté militaire, mais c'est qu'il réussit à chose très rare, à organiser et préparer sa propre succession. Et ça c'est miraculeux.
Ah, complètement. Et il tient bon même contre toutes les pressions de sa famille. Vous savez que sa petite fille va épouser un prince cousin germain de l'actuel roi qui peut prétendre à la couronne. La famille fait tout ce qu'elle peut pour qu'elle écarte Juan Carlos de la succession. Et ce militaire légaliste ne peut pas aller contre ce qu'il a fait.
Et qui est souffrant.
Au point de vue, il est plus que souffrant. Il se traîne, c'est un malade. On va d'ailleurs prolonger son agonie pendant presque 90 jours, si vous voulez, en opération sur opération, pour des raisons sordides, hein, pour arranger la succession, pour sortir l'argent suisse. Ça va être épouvantable. On va dépecer, cet homme va dépecer littéralement tous les côtés.
Pour qu'il reste encore vivant.
Oui. Or là, la succession, c'est vrai qu'il la prépare complètement et sans illusion. Il sait que le prétendant, il sait que Juan Carlos, son successeur, ne sera plus du tout dans la ligne de son régime et qu'une ouverture va se faire. Il pose une question très étonnante à celui qui va devenir premier ministre du roi, Adolfo Suárez. Il lui pose la question, est-ce que d'après vous, quelque chose peut être sauvé du régime après ma mort? Et Suárez, qui est chef du mouvement falangiste, qui est un titre creux mais très important dans l'Espagne franquiste, lui répond, je ne crois pas, Excellence. Et Franco ne répond pas un mot, baisse la tête, secoue et s'en va tout seul. Il sait que ça va se passer. Et il sait aussi que lui est prisonnier de toutes les forces qui l'ont porté au pouvoir et qu'il ne pourrait pas le faire. Donc, c'est un petit peu comme un peuple. Et toute l'Espagne actuelle, si vous voulez, toute cette Espagne moins commune, il ne faut jamais oublier qu'elle est sortie de l'intérieur du franquisme. Qu'elle était là. Et si vous voulez, c'est ce qui a étonné l'Europe, ça a été la transition. Franco meurt quelques mois après. Moi, j'étais à Madrid à ce moment-là, et j'ai su que le franquisme était fini et que quelque chose. Simplement, quand j'ai vu des centaines de revues porno sur les trottoirs devant les kiosques, je me suis dit, ça y est, on est parti, c'est bon, c'est fini. C'était. Et les foules se ruaient dans les cinémas. C'était. Vous voyez, c'est allé d'ailleurs à une vitesse incroyable.
Ah oui.
Incroyable.
Ah oui.
Mais parce que tous les cadres étaient en place. Personne n'est venu de l'extérieur.
Vous insistez beaucoup sur ce côté fatigant, tranquille, immobile de cette société. Je me souviens, pour y avoir visité Comillas en 1962, et c'est vrai qu'il y avait, là ça commençait un petit peu quand même, mais il y avait ce côté immobile, très lent, la durée, le temps. Alors, je dois dire que ce livre éclaire tout un pan de l'histoire non seulement espagnole, mais européenne. Et vous imaginez que, et si Franco avait échoué, vous aviez une Espagne qui était soviétique.
À ce moment-là, oui, au moment où ça se produit, oui, parce qu'ils détiennent déjà tout le pouvoir. C'est pas moi qui le dis, parce que si c'est moi qui le dis, ça présente pas un grand intérêt. Mais un socialiste qui était ministre de la guerre à ce moment-là, donc en 1938, pose à un moment donné à ses camarades en conseil des ministres la question « Pourquoi les communistes se sont-ils emparés de l'armée, de la police, des services, des contre-espionnages ?» Parce que si par hasard nous gagnions la guerre, ils détiennent déjà le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment pris en main toutes les forces armées du camp soi-disant républicain. Ils ont mis d'ailleurs comme président de la République une marionnette à eux, si vous voulez, Negrín. Ils font renvoyer les ministres qui ne leur plaisent pas. Et puis surtout, ils ont procédé à la grande épuration. Ils ont massacré les anarchistes.
Les poums.
Ils ont donc massacré à gauche et à droite. Et ils ont fait le vide et ils sont là.
C'est impressionnant. Je veux dire que, au moins dans ce livre, vous appelez un chat, c'est clair, c'est net. Et vous qui êtes, il faut quand même le rappeler que votre mère travaillait tout de même, était républicaine. Et ce qui est très beau, c'est que vous-même, vous continuez à être républicain. Vous le dites, vous êtes rouancarliste.
Ah, tout à fait.
Et,
j'accepte tout.
Légaliste.
J'accepte tout à fait la monarchie constitutionnelle parce qu'elle est la seule pour l'instant à avoir assuré la réforme sociale, la justice et l'ordre. Et que si vous voulez, ça marchait et que la démocratie, on la lui doit. Et que ce roi s'est révélé quelqu'un de très exceptionnel. Ensuite, je dis que je suis républicain, je le reste très profondément. Mon refus de Franco ne vient pas du tout pour ce qu'on dit en France. Il vient de son conservatisme. Je trouve que ce conservatisme bigot, la politique suivie pendant plus de 30 ans dans ce domaine, était pour moi parfaitement antipathique. Et non, je ne m'y reconnais pas là-dedans. Mais si vous voulez, quand je dis républicain, je dis quelque chose de très précis. Je suis républicain, c'est-à-dire très hostile à ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie. Si vous voulez. Pour moi, la République, c'est des élections, des représentants du peuple, des lois votées et qu'on respecte. Du moment où vous faites un sondage toutes les 10 minutes pour savoir si oui ou non on doit rentrer à l'OTAN, si oui ou non on doit faire des centrales nucléaires, etc., vous n'êtes plus en République. Vous êtes dans autre chose. Alors, vous pouvez choisir cette démocratie à l'américaine, mais je dis qu'on n'est plus en République, si vous voulez. Moi, je suis un républicain très, très strict là-dessus.
Donc, les lois.
Les représentants élus ont pour mission de voter des lois et les gouvernements d'appliquer ces lois.
Alors, justement, ce livre nous interpelle tous, c'est-à-dire espagnols, bien sûr, au premier plan, français aussi ensuite, européen, évidemment, parce que en lisant votre livre, lorsque l'on est français, comme vous et moi, bien entendu, vous êtes d'une double origine, mais ça nous interpelle aussi, nous, en tant que français, parce que on réalise à quel point, à l'époque où nous étions, enfin, la France était, une bonne partie de la France était pro-républicaine, mais de façon presque aveugle. C'est impressionnant quand même.
Ah, mais je vous dis, parce que ce mythe, ça a été un triomphe de la propagande. Ce mythe.
C'est ça.
Vous savez, il y a un cas très précis, si vous voulez, qui est intéressant. Parfois, pas les anecdotes, mais les petits faits historiques donnent parfois un sens. Au moment des grands massacres dont je vous parle à Madrid, les sacs, les sorties de milliers de morts, hein, il y a eu un homme qui était consul de Norvège qui, par hasard, allant visiter un ami à la prison de Madrid, voit tous ces autobus, ces autocars, etc., voit qu'on est en train de charger des prisonniers, prend sa voiture, suit clandestinement les deux bus, arrive au village, etc., réussit à parler avec des gens et apprend le massacre. Il rédige un terrible rapport, si vous voulez, qui doit être présenté devant, donc, à Genève, aux Nations, ce qui est appelé à l'époque l'équivalent des Nations Unies. Miracle, enfin, horreur, son avion s'envole, lui, dans sa serviette avec ce rapport, et son avion est abattu par un avion de chasse. La presse de gauche, du côté républicain, titre « La chasse fasciste abat un avion ». Pas du tout. C'était un vol régulier d'Air France et il a été abattu par un avion soviétique, par un avion russe. Oh là, il va à la République. Ne fallait pas que ce rapport arrive parce que s'il arrivait, on détruisait tout le mythe propagandiste de la République pure, qui était la victime de l'intrigue. Et tout a fonctionné sur le système, sur ce système-là. Mais nous avons beaucoup de mal, hein, chacun de nous, je me dis, si vous voulez, je crois que les hommes ne se posent plus du tout, très rarement, la question, et surtout les jeunes gens aujourd'hui, hein. Pourquoi exactement est-on prêt à donner sa vie, si vous voulez ? Si on a l'impression qu'on croit réellement quelque chose, qu'on croit par exemple à la liberté, qu'on croit à la justice, qu'on croit à un certain nombre de valeurs, quel est le seuil et quel est ce qui fait qu'on ne peut pas l'accepter ? Or, si vous voulez, on a accepté, mais encore en France, si vous voulez, vous pouvez parler pendant des heures et disserter pendant des heures de la Shoah, du crime de nazisme, etc. Essayez d'en faire autant avec le Goulag, avec les crimes soviétiques, avec les millions de morts, avec le Cambodge, avec la Chine de Mao.
Plus difficile.
Bah, c'est beaucoup plus difficile. Alors, on le sait, hein, ils vous diront, moi aussi, mais on le sait, on le sait. Mmh.
On le sait, non, on ne le sait pas toujours.
On le sait, mais on ne le vit pas intérieurement comme étant, si vous voulez, le même défi posé à l'humanité, si vous voulez, et à l'homme tout court. Hein.
Et puis, cher Michel Del Castillo, vous évoquez, même un peu rapidement, mais de façon quand même tout à fait sérieuse, Franco et les Juifs.
Ah ben, il a sauvé des dizaines de milliers de Juifs sur instruction, tous les Juifs de Grèce, du Balkan. Il avait demandé à tous les services consulaires que tout Juif des Balkans, donc, qui va être déporté, s'il peut se réclamer d'une origine espagnole, qu'on lui donne un passeport espagnol, il devient citoyen espagnol et il échappe à la déportation. Et on envoie même des diplomates espagnols dans les camps, à Buchenwald, etc., pour sortir des Juifs qui se réclament de la nationalité espagnole.
Mais comment expliquez-vous cela ?
Ah ben ça, vous avez la clé en 1938, c'était avant la fin de la guerre civile, son bulletin officiel publie un très long papier pour réfuter complètement les thèses racistes. Et quand il rencontre Hitler en Dai, c'est assez drôle. Pour lui, Hitler est un zigoto, c'est un agité.
Ah oui, oui.
Ces histoires d'Ariens blonds qui vont danser dans
la forêt. Il prend pour un arabe, d'ailleurs, Hitler le prend pour un arabe.
Et Hitler a mépris pour lui, considéré c'est un marchand de tapis arabe, d'un truc ça, ce petit type un peu replé, un peu brun comme ça, olivâtre, etc. Et lui, Franco, a l'impression de se trouver devant un véritable agité. Ce qui met Hitler en fureur, parce que Hitler, par exemple, commence par déclarer que la guerre est finie. La guerre est finie, que là, il envahit l'Angleterre et que c'est fini. Et Franco, en militaire, très calmement, lui dit « Ah oui, mais le débarquement en Angleterre n'a pas encore eu lieu. Et puis la flotte anglaise est quelque chose de redoutable. Et puis l'Angleterre a derrière tout l'Empire. » Et l'autre explose littéralement de fureur devant ce petit militaire basané qui ose lui dire qu'il est en train peut-être de rêver, que ce n'est pas encore fait.
Question personnelle, pourquoi il n'a pas envahi l'Espagne, Hitler ?
Alors, il le dit, on a dans les propos de table une phrase très nette, il a massé toutes les troupes le long des Pyrénées, et puis donc, il donne le contre-ordre, et il dit à ses militaires d'un truc, ce serait un morceau trop dur à avaler, les Espagnols ne sont pas des Italiens. Il a très peur de se retrouver comme Napoléon enlisé dans une véritable guérilla de masse. Hein.
Et c'eût été le cas, d'ailleurs.
Ça aurait été le cas, tout à fait. Et Franco était... Vous savez qu'on oublie aussi que Franco lève à ce moment-là les troupes, fait la conscription et les fait bouger vers la frontière des troupes qui auraient été battues. Hein. Le problème n'est pas là. Mais montrant très nettement Hitler, s'il franchit cette frontière... La guerre est là. Mais tout en protestant de son amitié, hein. Il n'arrête pas de dire Hitler qu'il est son ami.
C'est un manœuvrier hors pair. Hein, alors, nous nous quittons à regret, cher Michel Del Castillo. Je rappelle votre livre que vraiment je conseille, qui est un morceau d'histoire absolument passionnant et passionnant, mais et en même temps qui interroge. Il y a des pages, j'ai noté de nombreuses pages, il y en a des dizaines et des dizaines pour un livre de plus de 300 pages, des pages qui vous interpellent, ou le sens de la vie, le sens de nos accès. C'est impressionnant, je dois le dire. Moi, je pense que ce livre appartiendra à la bibliothèque d'un homme cultivé comme Brodel, comme un livre que vous citez, Lucien Febvre, sur la jeunesse de Luther, comme le grand Stéphane Zweig vous à pied, le Fouché, etc. Eh bien, je pense que le Michel Del Castillo, le temps de Franco, c'est ce livre à cette hauteur de Zweig, de Brodel et des grands livres. Et au fond, il y a presque un petit peu, ça me vient comme ça tout de suite. Alors, votre postface est admirable. Elle est admirable. Il faut lire et relire. C'est, si vous voulez, je la relirai. C'est, elle est formidable. Cette... Il y a presque un peu, excusez-moi, un peu Talleyrand chez Franco ou pas?
Ah oui, tout à fait. Si vous voulez, il y a Philippe Nourry qui a écrit un des plus beaux bouquins sur Franco, le compare beaucoup à Robespierre, ce qui n'est pas faux par la froideur, la méticulosité, le côté comme ça, aussi l'absence totale de vie, si vous voulez. Il a eu une femme, il l'a aimée, une fille. On ne lui connaît pas l'ombre d'une aventure, mais vraiment d'une fidélité, un truc. Peu, je vous ai dit, ascétique, peu, là. Très, il y a un côté, c'est vrai, très robespérien, moins, je dirais, la grande déclamation humanitaire, si vous voulez. C'est pas un lyrique.
Non.
Il a une mauvaise... C'est un mauvais rhéteur, il parle pas très bien, il a une petite voix. C'est d'ailleurs étonnant.
Son père l'a mis de côté.
Ah, complètement, il n'a pas été aimé du tout par son père. Et il... C'est étonnant que cet homme sans charisme,
énigmatique,
sans charme, ah oui, tout à fait, et plus comme ça, ait été un des plus longs règnes de l'Espagne.
Hein,
avec celui de Philippe II, ils ont presque la même longueur tous les deux. Hein.
Grâce à vous, Michel del Castillo, nous vraiment redécouvrons l'Espagne, nous redécouvrons cette Espagne moderne, même à travers le franquisme, s'il y a pourtant des pages très douloureuses. Et votre livre nous interpelle, franchement, en tant que Français, sur nos propres idéologies, sur nos relations avec l'Espagne. Et il serait peut-être temps, justement, que vous qui êtes un passeur et un grand passeur, il serait peut-être temps que, justement, et les relations se sont bien améliorées avec l'Espagne, il serait peut-être temps que, je me répète, qu'entre Français et Espagnols, il y ait vraiment des échanges florissants dans tous les domaines. Et vous rappeliez les grands personnages, Miguel de Unamuno, le sentiment tragique de la vie, et vous rappeliez aussi que la République espagnole nous a donné Maria Cazares.
Ah,
qui a dit, et donc, c'est formidable. Merci, Michel del Castillo.
Merci à vous.